Les manettes à la baguette sur RCN, Yoann Turpin.
Et bonjour à tous, les manettes à la baguette, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, de films, de séries, de tout ce qu'il y a sur nos grands et nos petits écrans, au travers de sa musique. Bonjour Joris.
Bonjour Yoann.
Ça va ?
Très bien, et toi ?
Ah, écoute, ça va super, j'ai pas mal de trucs à raconter, comme toujours. Et pour ménager mon plaisir, allons-y, commençons par moi. Alors, mon bon Joris.
Jeux vidéo.
Et oui, absolument, à ce style absolument reconnaissable, oui, voilà. Chiptune, hein, ça c'est ouais. Évident. Ce type de son-là qui fait très Game Boy, eh bien, c'est de la musique émulée par un chipset 8 bits, c'est-à-dire une unité de calcul.
Oui.
Oui, mais pourquoi est-ce que...
Ah ben ça, c'est la grande question.
Ça vient de sortir, Mina the Hollower. qui est le dernier banger de Yacht Club Game. Yacht Club Game à qui l'on doit Shovel Knight, le chevalier Attention. Bleu avec une pelle qu'on a vu beaucoup. On s'en est tapé quand même pendant 10 ans de ce Shovel Knight. Et on savait qu'il y avait un gros projet qui doit quand même relancer un peu Yacht Club Game avec ce jeu, donc ils en attendent beaucoup. Donc il vient de sortir, il est tout chaud, et j'ai eu l'occasion de pouvoir y jouer, et c'est vraiment une très grande réussite. Amateur de Zelda like, allez-y, foncez. Il y a une ambiance à la Castlevania, la casse de la colorimétrie de la Game Boy Color est respectée, mais naturellement c'est très moderne, il y a plein de bonnes mécaniques. C'est vraiment un RPG dans un univers assez drôle où on interprète une petite souris qui est une inventrice. C'est dans un monde un peu gothique horror où on a des animaux anthropomorphes. Il y a naturellement cette bande son qui est complètement folle, qui nous replonge, mais avec des mécaniques assez modernes. Bref, ça marche très bien. Et il faut que ça fonctionne bien, parce que Yacht Club Game naturellement mise beaucoup sur ce jeu. On sait qu'ils ont prévu d'étirer quand même la licence Shovel Knight, au moins jusqu'à un Shovel Knight 3D. Il paraît qu'il est à milieu de développement, qu'ils vont peut-être nous montrer quelque chose en fin d'année. Mais voilà, ils misent tellement là-dessus qu'ils ont déjà commencé à travailler sur un préquel. Donc voilà.
Ah oui, d'accord. Quand
même. Si, en tout cas, amateur du genre, si vous avez sorti sur toutes les plateformes, il n'y a pas de problème. Amateur du genre, regardez les images et foncez, c'est vraiment très bon.
Avec plaisir, on va faire ça. Allez, j'enchaîne.
On enchaîne. We'll be right back. Mission impossible.
Bien sûr.
Avec oui. de l'aide, avec de l'aide.
C'est ça. La deuxième a pas mal aidé, c'est Lorne Balfe.
Oui.
Comme on disait, comme tu avais trouvé en antenne, bien sûr.
Oui.
Alors, pourquoi Mission Impossible ? Alors, déjà, première chose, le premier Mission Impossible en film, bien sûr, avec Tom Cruise, hein, comme vous n'êtes pas censé ne pas le savoir, est sorti en 1996. Donc voilà, on fête les 30 ans de Mission Impossible cette année.
Ah, oui.
Donc il y aura probablement quelques ressorties hein, au cinéma, notamment du premier de Brian De Palma, qui était... dans mes souvenirs plutôt sympathique, mais après ça a pas mal dérivé, enfin c'est devenu un grand film d'action, gros blockbuster.
Oui, en fait tout a été misé sur Tom Cruise
avec des casquettes de plus en plus.
Voilà. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'au bout de 30 ans, d'après ce que je sais, avec le dernier qui
c'est fini, normalement
voilà, Reckoning, c'est fini, voilà, avec Reckoning, je crois.
Ouais, c'est ça, voilà, Dead Reckoning partie 2, ouais.
Bah, Dead Reckoning partie 2, c'est terminé. Ouf.
Ouais.
Mais peut-être va-t-on encore manger.
Ouais. Ouais,
oui, voilà. Ça c'est sûr, puisque quand on peut faire un billet, pourquoi est-ce qu'on le ferait pas?
Ouais.
Mais on n'a pas fini de manger de l'espion, à mon avis, cette année.
Oh, ça c'est sûr.
Voilà.
Et on enchaîne avec toi.
C'est parti. C'est Lana Del Rey,
oui,
n'est-ce pas?
Sûr.
Et évidemment, c'était inévitable, ça arrive quelquefois, mais on va parler de la même chose pour
bien
une
sûr.
Fois, puisque c'était First Fly, justement, chanté par Lana Del Rey, exclusivement, comme vous le savez, pour les films James Bond. Mm-hmm. Pour la licence James Bond, il y a toujours une chanson d'intro qui est censée un peu marquer le film ou le produit média qui s'ensuit. Là, c'est donc pour First Flight, le titre éponyme, qui est le dernier jeu sorti dans la licence James Bond. Alors, il est intéressant, pourquoi ? Bon, déjà, il faut dire qu'il est sorti par IO Interactive, qu'il a été pas mal teasé aussi sur la suite jeu. Pourquoi Nintendo ? Parce que Nintendo était un des premiers à s'emparer de cette licence proprement avec GoldenEye, justement sur N64. Et la licence James Bond a été, faut-il le rappeler, rachetée par Amazon MGM Studios. Ce n'est plus entre les mains donc de la famille Broccoli. Et si ce n'est en tant que voilà, ils donnent des petits conseils, ils vont à quelques petites réunions et ils touchent un tout petit chèque. Donc autant dire, plus rien du tout.
C'est ça.
Un mot sur la musique tout de même. C'est David Arnold qui commence à devenir aussi un des compositeurs les plus emblématiques de cette série, puisqu'il s'en était emparé, lui, de la licence pour l'illustrer musicalement avec l'air Pierce Brosnan. Et pour le mieux, parce que la plupart des titres qu'il a composés ou qu'il a co-composés avec les acteurs qu'il a choisis sous cette ère-là sont tous devenus aussi des bangers musicaux. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu ? Eh bien, c'est le parcours initiatique de James Bond. C'est avant qu'il ait sa license to kill, avant qu'il ait son permis de tuer. Voilà, c'est ses premiers pas au sein du MI6. Et c'est très intéressant de voir ça. On est dans l'ère des préquels. Et il faut quand même dire que l'action, le capture motion est interprété par l'acteur Patrick Gibson, qui fait donc James Bond, qui a prêté une partie de ses traits, sa voix et sa gestuelle au personnage. Allez voir un petit peu à quoi ressemble le véritable acteur qui a son double numérique, son avatar numérique dans le jeu. Voilà, c'est Patrick Gibson officiellement qui est le jeune James Bond.
Yes.
Voilà, bon, je trouve que c'est...
J'ai vu aussi des petits gameplays, c'est très sympa, une espèce de mélange entre Hitman et Uncharted.
Mais totalement, mais oui, oui.
Donc vraiment très sympa, je pense que j'aimerais bien y jouer, en tout cas.
Oui, ça, c'est sûr. Il fait très plaisir, parce que voilà une licence qui avait besoin aussi de se dépoussiérer grandement. Il faut dire quand même que ces dernières itérations jeux vidéo ludiques étaient bien, mais ça parlait qu'un public niche, c'était pas fameux. On était sur du TPS, third person shooter. Donc jeu de tir à la troisième personne, bon, voilà, c'était... Et en plus, par-dessus le marché, GoldenEye a été déjà réinterprété deux fois.
Ouais.
D'accord ? Donc, il fallait qu'on sorte un peu de la boucle de l'enfer. Donc, voilà, moi j'y crois, moi j'y jouerai, et puis laissez-vous tenter en attendant de voir ce que Amazon va faire de cette licence.
Bah, on va en parler juste après la musique que je vais mettre,
qui
est GoldenEye.
Allez, c'est parti, super transition. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they gather around him.
shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Bon, voilà GoldenEye. Hein.
Tina Turner, David Arnold, tout y est. Voilà ce que je viens de dire.
C'est ça. Et oui, parce que, comme tu l'as dit, en ce moment, Amazon est en train de travailler sur son prochain James Bond, avec notamment Denis Villeneuve qui sera à la réalisation. Donc on peut s'attendre à quelque chose de pas mal, je pense.
Oui.
Mais on n'a pas encore l'acteur, mais les castings viennent de commencer et on a déjà 12 noms qui ont passé le casting et qui pourraient potentiellement jouer James Bond. Je ne vais pas passer sur les 12 noms, mais quelques-uns. Ça passe de choses plutôt d'acteurs plutôt jeunes à des acteurs plutôt musclés. Enfin, en fait, il pourrait y avoir des profils de James Bond très différents, ce qui pourrait donner des scénarios aussi très différents.
En effet.
Donc, on a notamment Henry Cavill, hein, pourquoi pas.
Ah,
mais...
ouf, ça y est, il est revenu dans la course.
Ouais, c'est ça, Henry Cavill, mais je le vois un peu moins quand même. Enfin, je trouve qu'il a déjà plein de gros persos. Et du coup, je ne sais pas si l'attribuer James Bond, ça marcherait aussi sur ce coup-là.
Oui, je suis d'accord. Et en même temps...
Et il n'est plus tout jeune non plus.
Si non, c'est
je,
ça.
Je sais qu'ils veulent partir sur un James Bond un peu jeune pour pouvoir, pourquoi pas faire 4 ou 5 films. Mais,
Parce que bon, je vais pas épiloguer, on n'a pas 2 heures d'émission. Mais,
bien sûr.
Quand on regarde Sean Connery, Pierce Brosnan, Roger Moore, qui était-il avant, qui était-il après ?
C'est vrai.
Est-ce que pour une fois, on ne pourrait pas avoir un acteur qui n'a plus rien à prouver et qui prend James Bond et qui en fait quelque chose de fou ?
Ouais.
Ce serait peut-être ça l'option Cavill. Comme j'aurais adoré voir un Idris Elba faire un James Bond, par exemple, quand on en discutait encore.
Oui, c'est vrai.
Voilà, avant qu'il s'exprime en disant « vous êtes gentil », mais non. Mais voilà, bon, allez, moi j'y crois. De toute façon, je suis trop fan pour être impartial, je le dis tout de suite à cet endroit.
Ouais. Bah, après, il y a aussi Aaron Taylor-Johnson, qu'on a vu dans Kick-Ass et Bullet Train, grosse masse.
Ça, ce serait pas mal.
On a un Josh O'Connor, qui est un peu un outsider, mais qui pourrait faire un James Bond un peu plus jeune. On a Theo James, Jacob Elordi.
Elordi, on l'a bientôt à toutes les sauces.
On l'a à toutes les sauces. Peut-être le fait qu'il soit australien va peut-être pencher sur la balance. On a Tom Holland, bon, pourquoi pas. Mais on a aussi un qui... et au-dessus des autres en ce moment pour l'instant sur pourquoi pas enfin sur le fait dans le casting c'est Callum Turner qui est apprécié par beaucoup de gens et qui pourrait faire un très beau James Bond je pense
voilà
bon, on verra on en saura plus d'ici je pense quelques émissions parce que ça va arriver très vite donc voilà.
Ah
c'était la parenthèse James Bond.
C'est parfait on aura plein de choses à dire.
Oui. Allez, on enchaîne avec toi.
Thank you.
Alors,
j'aimerais bien que tu nous partages tes excellentes réflexions hors antenne.
J'ai dit que c'était un jeu vidéo, que ça faisait très Nintendo, hein, en tout cas en facture musicale.
Ah bah oui.
Que ça sonnait très spécifique pour un univers particulier, mais que ça pouvait être un peu de tout. Ça peut être du Pokémon, ça peut être du Zelda. Même dans certains Mario, ça fait un peu ce style-là, mais je saurais pas dire ça vient de quelle licence.
C'est fabuleux parce que
c'est Smash Bros.
C'est toutes les licences. Cette musique est tirée de Smash Bros. Absolument bravo.
Ils ont bien fait leur taf.
Alors bon, c'est lié, c'est un thème très connu qui est lié spécifiquement à une licence, qui est tiré du jeu Smash Bros. Pour ceux qui ne le sauraient pas parmi nos auditeurs, Smash Bros. Est une sorte de grand jeu de combat, un party game où tous les personnages licenciés Nintendo se retrouvent pour s'affronter les uns les autres avec des additions bienvenues, etc. Eh bien, nous avons écouté le thème de Corneria dans la licence Star Fox et notamment un thème qu'on peut réentendre dans le jeu Lilat Wars. Et pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce que Star Fox ressort le 25 juin dans sa toute nouvelle belle version. Il a été teasé récemment, on a vu des images. C'est la hype autour de ce jeu-là, puisque on nous refait le coup de refaire Lilat Wars. Il y en avait une qui était une version qui était arrivée pour les Nintendo DS à l'époque, 3DS.
Ouais.
Mais c'était en fait une version HD remaster, on peut dire. C'était pas fou. Là, on a vraiment quelque chose qui reprend le jeu, qui fait une refonte. Alors déjà, ça a l'air très beau, très bien fait, les mécaniques sont là. Et surtout, faut-il le rappeler, dans Super Mario Galaxy, le film, on nous avait teasé le personnage de Fox McCloud, où le public européen, la moitié du public européen s'est dit « mais qui c'est ? Pourquoi ? Comment ?» etc. Souvenez-vous tout de même que Nintendo aime à maîtriser leurs produits et que Fox McCloud est très, 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 très connu au Japon. Hein, il est apparu avec la Super Nintendo, avec le mode 7, la première utilisation de leur mode presque 3D qui n'était pas de la 3D. Et donc, la série des Star Fox était extrêmement populaire au Japon. Ils commencent déjà par se servir eux avant de nous servir nous. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ce n'était pas complètement abscon et sorti ex nihilo d'avoir mis Fox McCloud dans le film, le second film Super Mario. C'est bien parce qu'il a cette popularité-là et qu'en plus, ça leur permettait de faire une belle transition sur le fait qu'il nous préparait de toute manière un jeu complètement Star Fox où lui est le héros principal. C'est son jeu tout bien, tout beau, tout refait avec des nouvelles additions cette fois-ci, de la modernité, des nouvelles choses, j'en suis persuadé, des easter eggs à gogo, c'est évident. Ouais. J'ai hâte, le 25 juin, réponse en tout cas pour Nintendo Switch 2.
Trop bien.
Et allez,
très hâte.
Je pense qu'on peut enchaîner.
Allez.
Beata Maria, je clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Beata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de traîne misère. Mais pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente, ses yeux de feu m'embrasent et me hantent. Quelle brûlure, quelle torture, les flammes de sa chevelure dévorent mon corps d'obscène flétrissure. Infernal, bacchanal, l'enfer noircit ma chair. Péché de désir, le ciel doit me punir. Est-ce ma faute ? Pourquoi ce blâme ? C'est cette sorcière gitane par qui mon cœur s'enflamme. Est-ce ma faute ? Si notre père a fait les hommes moins puissants que Lucifer. Par pitié, Marie,
Maria, protège-moi du mauvais sort, de cette fleur du mal et de son corps.
Détruis Esmeralda, qu'un rideau de feu soit son linceul,
ou fais qu'elle soit à moi et à moi seul.
Ministre Frollo, la bohémienne s'est enfuie.
Quoi ?
Elle n'est plus dans la cathédrale, elle s'est échappée.
Mais comment ?
Ça ne fait rien. Sors d'ici, idiot ! Je la trouverai, je l'aurai, même si je dois brûler tout Paris !
Infernal, bacchanal, diabolique sorcière, sois mienne, ma passion te mènera en enfer. Seigneur, pitié pour elle. Seigneur, pitié pour moi. Fais qu'elle s'offre à moi ou elle brûlera.
Jean-Pierre.
Voilà.
La voix de juge Frollo, de c'est Gandalf, ça. De Scar. Oh là 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 là, il me manque terriblement le oui. Bossu de Notre-Dame, évidemment.
Exactement, le Bossu de Notre-Dame, le classique Disney,
et oui.
Sorti en 1996, il y a maintenant 30 ans, joyeux anniversaire.
Absolument.
Je l'ai également revu et bien sûr toujours un très beau film avec de très belles musiques composées par Alan Menken. Alan Menken qu'on ne présente plus, qui a composé globalement toutes les musiques des Disney entre 85 et la fin des 90.
Ça, voilà, c'est le second âge d'or.
C'est ça, où
voilà.
Il devait revenir voilà, un peu parce exactement. Que sinon c'était la catastrophe. Donc La Petite oui. Sirène, La Belle et la Bête, Hercule, Pocahontas, Bossu de Notre-Dame et tout le, oui. tout le tintouin. Quoi.
C'est le second âge d'or. Et d'ailleurs, petite anecdote,
oui.
L'excellent voice acting français
oui.
de ce film et Francis Lalanne
ouais.
et il
ouais.
n'aurait jamais dû y participer en réalité parce que ce qui avait été choisi c'était déjà une liste arrêtée, c'est quelque chose ouais. qui s'est rajouté au dernier moment et les Américains n'avaient absolument aucune idée de la réputation ou de la qualité de l'actualité de ce chanteur-là à l'époque. Ils ouais. ont dit, mais celui-là, il explose tout, c'est lui qui doit faire le rôle. Donc on a fait des yeux ronds en France, mais oui, Francis Lalanne est un très bon chanteur, toute ouais. chose mise de côté.
Ah bah ça, c'est sûr.
Voilà, et donc il fait un bossu particulièrement incroyable, sa performance est très très bonne voilà, dans la version française du film.
Voilà, c'était la petite coup de cœur que j'avais envie de partager.
Mais
et le petit anniversaire.
On est là pour ça.
Exactement.
Attendez, c'est notre émission. On fait encore ce qu'on veut.
Allez, on va sur de l'actu maintenant.
Absolument.
Thank you.
Les manettes à la baguette sur RCN.
Comment ne pas parler de cette actualité ?
Eh oui, nous avons entendu le titre « Vive de Gaulle » de Volker Bertelmann. Difficile de ne pas savoir de quoi est-ce qu'on va
le
parler.
Titre est clair.
Voilà, ça va être le diptyque de film réalisé par Antonin Baudry, avec Simon Abkarian dans le rôle de De Gaulle, Nils Schneider dans le rôle du général Leclerc pour la première partie, Félix Kiesil dans le rôle de Jean Moulin. Et ça nous permet, il y a tout un tas d'autres très très bons acteurs là-dedans, ça nous permet d'aborder un thème que tu as très justement nommé, Joris, avec la blockbusterisation des films français. Est-ce que tu peux développer ?
Eh bien, on essaye un peu, je pense, à l'image des Marvel ou des grosses productions américaines, de rester un peu dans la course avec des films français un peu d'action, à grand spectacle, avec plein d'effets et plein d'actions, voilà.
Oui, oui.
Je pense notamment aux Trois Mousquetaires qui ont plus ou moins marché, mais Le Comte de Monte Cristo qui a très bien marché, et même, même à l'international, qui a plutôt bien marché, et qui a du coup forcément développé... tout un plan dans les productions françaises de faire des films un peu du même calibre. De Gaulle, bon, c'est pas tiré d'un livre, tiré d'un personnage historique qui a notamment fait la guerre, donc c'était un peu
le genre biopic qui fonctionne bien,
exactement le personnage qu'il fallait pour et surtout cette espèce de faire un film en deux parties pour le film un peu de l'année français, on va dire, qui est attendu par plein de gens. Et
Je vais déposer à l'INPI, la propriété intellectuelle, le titre que je viens de trouver, qui est bio-épic, puisque Oppenheimer, les Américains le font toutes les 4 secondes. Donc nous, il faut aussi qu'on ait les nôtres, nos bio-épiques, c'est-à-dire blockbusteriser un film biopic. Voilà, je vais me dépêcher parce que comme je l'ai dit de manière publique à l'antenne, ça se trouve que quelqu'un...
Il faut poser le brevet.
Je vais poser le brevet tout de suite.
Non mais, beaucoup d'adaptations de livres, en tout cas en films, qui vont arriver. Il y a quelques mois, il y a eu Les Misérables qui est un peu passé inaperçu, mais c'était aussi un peu dans
le
même genre du
Comte
de
Monte Cristo.
Essayer de faire un gros film d'action. Et là, je me permets de parler des réalisateurs du Comte de Monte Cristo qui sont en train de travailler sur Les Rois Maudits, un très gros
pavé,
puisque c'est 7 gros livres de français en 7 tomes, ils veulent adapter les 7 tomes en 7 films, donc même ça, dans l'idée, c'est de faire une espèce de saga.
Il y avait eu quelque chose qui avait très bien marché à la télé avec Jeanne Moreau, Depardieu, c'était en téléfilm, je me souviens de ça, sur Les Rois Maudits, mais faut-il aussi dire que la première adaptation télévisuelle, aussi téléfilm, elle date, elle, des années 70. Et c'était Jean Pia qui faisait un des personnages dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a une forme de cash machine qui s'est mise en route pour qu'on puisse aussi proposer des grosses productions françaises basées sur notre patrimoine et notre culture, parce que ça se vend.
Ouais.
Regardez, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, Expédition Clair-Obscur, Expédition 33, pour parler que du jeu vidéo. Là, je viens de voir la même chose tirée d'un bouquin, Sa Majesté des Mouches, la série Canal+, qui vient d'arriver. Avec L'Île avec tous les enfants. Et puis parlons par exemple des romans de Lemaître, il y en a eu plein aussi. Je crois que c'était Au revoir là-haut, quelque chose comme ça.
Ça,
il y a eu pas mal de films aussi adaptés.
Ouais.
Donc on est dans quelque chose qui est comme ça. Est-ce que c'est pour le bien ou le pas bien ? Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on a beaucoup d'hégémonie quand même américaine dans ce qu'on peut voir au cinéma la plupart du temps, parce que ça fonctionne, que c'est un standard occidental.
Ouais.
Est-ce que notre culture est favorablement représentée avec les mêmes processus ? J'ai tendance à dire que je reste moyen chaud sur la question. Après, est-ce que ça peut permettre à des gens, comme toujours, de s'intéresser à la nôtre et de rentrer un peu plus dans nos films ? Par exemple, le jeune, par parler que lui, Amélie Poulain, on n'a pas besoin de retirer une virgule ni un point, ça a tout explosé. Ça lui a permis de faire Alien 4 2-3 ans après. Donc ça peut fonctionner sans qu'on touche à rien. Voilà, maintenant, à nous de voir dans quelle ère on est rentré et comment est-ce que ça va fonctionner.
On verra ce que ça donne, ces deux films. C'est quoi ? C'est le 3 juin et 3 juillet, je crois. Donc,
c'est un mois d'écart
entre le premier et le deuxième.
Pour nous maintenir sur la poêle en train de frire et pas nous réchauffer trop tard. Voilà.
Bon, on verra bien.
Je vais aller les voir, comme ça j'aurai quelque chose à en dire.
Exactement. Allez, j'enchaîne.
C'est parti.
«
Bon, ah, Sherlock Holmes,
bien sûr.
Le thème avec Hans Zimmer à
exactement.
La baguette.
Oui, c'est ça. C'était le nom du thème. C'est Marital Sabotage, voilà, tout dans le nom. Parce que Sherlock Holmes en ce moment revient petit à petit à travers une série qui est en cours de création centrée sur Moriarty, bien sûr, le méchant de Sherlock Holmes, vous le savez normalement. Alors c'est les créateurs de la série avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Moriarty était interprété là par Andrew Scott, c'était une très très bonne série.
Ah oui, et Andrew Scott, je l'ai découvert d'ailleurs moi au travers de cette série et il m'a fait un effet bœuf.
Oui, il est incroyable. Une série qui réadaptait un peu Sherlock Holmes un peu à notre époque, en version contemporaine, comparée au film de Guy Ritchie. Donc là, de ce qu'on sait, c'est que en gros ça serait aussi une réadaptation bien sûr. Où en gros on suivra James Moriarty, professeur de psychologie criminelle à l'université, mais cerveau criminel derrière chaque grand coup du nord de l'Angleterre.
Oui.
Et donc lorsqu'il y a un rival qui va commencer à ébranler un peu son empire, il va rejoindre la police comme consultant afin de servir la loi pour éliminer la concurrence. Alors c'est tout ce qu'on a pour l'instant comme information. On
Est-ce
sait pas qui va l'interpréter.
Un Dexter Sherlock Holmes.
J'ai l'impression un peu. Après, c'est marqué qu'il découvrira bien vite l'existence d'une menace bien plus grande que son ennemi du moment, avec peut-être une référence avec l'habitant de Baker Street, sans le nommer. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais ça sera une série centrée sur Moriarty. On sait pas qui va le jouer non plus. Est-ce que ça sera le même que dans la série? Est-ce que ça sera un autre?
Mais en tout cas,
une série pour les fans de Sherlock Holmes.
Oui, absolument. Et puis, il y en a. Puis, il y a tellement d'adaptations de Sherlock Holmes. C'est incroyable. Je me souviens d'une série où je crois que le Watson est une actrice... assez moderne. Et puis, il y en a tellement. Il y a eu un film aussi comique récemment sur la question. Enfin, ça, c'est vraiment une licence étirable à l'infini. Et moi, j'aime bien parce que là, pour le coup, on n'a pas un univers forcément avec des obligations. Il y a quelques règles dans Sherlock Holmes. Mais c'est ça le miracle de l'adaptation. Quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que vous aimez, mais que vous voyez quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai adapté », il faut prendre comme ça vient. Je pense, naturellement, je fais un petit coup du pied du côté des fans d'Harry Potter et de la série qui arrive, en disant « C'est une adaptation, donc il n'y a peut-être pas tout qui va fonctionner, mais quand on adapte, on adapte.
Ouais. »
Donc, Sherlock Holmes, je trouve qu'il y a vraiment les coups des franches pour pouvoir faire des choses très bien. Et moi, j'ai très hâte, du coup.
Pareil.
Merci pour ça.
Avec plaisir. On termine.
On termine. Allez, c'est parti. Alors,
Kaamelott, oui, Alexandre Astier.
Et oui, à la musique et à la réale, c'était Juste Iudex qui s'entend dans le second volet, première partie.
Mmh, bien sûr.
On en parle pour deux raisons. La première, c'est parce que ça y est, Kaamelott partie 2, première partie,
ouais.
est disponible sur les plateformes. Il est arrivé à peu près partout. Et on a revu popper Alexandre Astier un petit peu partout ces derniers temps, sur les plateaux, dans des vlogs, dans des émissions YouTube, des choses comme il aime bien faire.
Mmh.
Et je pense que c'est une prise de température générale pour savoir dans quel contexte va arriver la partie 2 de la partie 2. Rien qu'en le disant comme ça rhétoriquement, on sent ce qu'il y a de bancal dans ce que je viens de dire. C'est pourquoi avoir découpé ce film en deux parties alors qu'on lui faisait le reproche dans le tout premier film que ça n'avançait pas, que c'était compliqué. Alors moi, ça y est, je l'ai rattrapé et tout à l'heure tu as fait un coup de cœur et là je vais te parler moi de coup de cœur rattrapage.
Ouais.
J'ai été circonspect avec le premier et je trouve que le second est mieux que le premier. Mmh. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui avancent.
Ouais.
Il y a du star talent que je vois avec des gens un peu qui marchaient pour le moment.
Ouais.
Bon, ça, c'est du haussement de sourcils, mais c'est commercialement bien vu. Voilà. Et moi, il m'a donné envie, personnellement, de savoir ce qui se passe dans la suite. Voilà, il a réussi à m'avoir. C'est très, très intéressant. En revanche, voilà, est-ce que j'aurais été le voir au cinéma ? Eh bien, pas du tout. Je suis très content de l'avoir vu sur des plateformes.
Okay.
En l'occurrence, je vais en citer une, MyCanal, hein, parce que c'est arrivé là-dessus. Voilà. Il va falloir un petit peu attendre avant de voir ça sur Disney+ et Netflix. Ça y est, j'ai fait mon travail acrobatique.
On les a tous cités.
Voilà. Où il y aurait eu HBO, il y aurait eu Hulu,
Amazon,
Apple TV,
Apple.
Voilà, on peut tous les dire. Mais voilà, je suis content de l'avoir vu de cette manière-là. Mais c'est vrai que j'aurais perdu mon temps dans une salle de cinéma. Je pense pas que voilà, j'étais public pour ça. Et c'est ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve que c'est toujours pas au niveau.
Voilà, ouais.
C'est mieux, c'est bien, c'est
mais
un bon
c'est
film.
Pas...
Voilà, c'est pas au niveau de ce que la série promettait.
Bien sûr.
Et du coup, est-ce que je me suis mis tout seul dans une sauce où je me dis qu'est-ce qui va venir après ? Ben oui, ça a marché. Pas avec le chemin attendu, c'est-à-dire dans les salles de cinéma, mais ça a marché, je veux savoir la suite.
Ouais.
Et si vous voulez savoir la suite d'ailleurs des manettes à la baguette, et ben dans 15 jours on revient parce que figurez-vous qu'on peut regarder des images et écouter ce qui vient avec, et ben oui on peut faire les deux
en même temps.